Merci d'écouter France Culture, il est midi. Et bonjour à tous. Dans quelques instants, ce sera la première partie de la Grande Table, mais tout de suite, les titres du journal présentés par Antoine Mercier.
Bonjour Caroline, bonjour à tous. François Hollande reçoit tout à l'heure à l'Élysée les filles et les avocates de Jacqueline Sauvage, cette femme condamnée à 10 ans de réclusion pour le meurtre de son mari qui était violent. C'est l'occasion pour le chef de l'État, sans doute, d'exercer ce droit de grâce avec lequel il avait pris pourtant des distances pendant la campagne présidentielle. Analyse politique tout à l'heure avec Stéphane Robert. Les négociations pour éviter une sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne, elles entrent dans le vif du sujet. Ce matin, David Cameron est à Bruxelles et il exige notamment de ses partenaires des réformes sur la question notamment de l'immigration avec des réformes qui permettraient d'éviter l'arrivée en Grande-Bretagne de personnes venant notamment des pays de l'Est. À l'approche de ce rendez-vous électoral aussi en Allemagne, l'Allemagne prend à son tour des mesures pour tenter de freiner également l'afflux des migrants qui prévoit notamment un délai de 2 ans pour tout regroupement familial, une accélération des procédures d'expulsion aussi des demandeurs qui n'ont pas obtenu le droit d'asile. On parlera aussi de la Banque du Japon qui instaure des taux d'intérêt négatifs, tenter de stimuler le crédit ainsi, donc l'activité économique, faire payer les banques qui placent leurs liquidités dans ces coffres plutôt que de les prêter aux particuliers ou aux entreprises. C'est donc l'objectif. On dira aussi un mot de ces discussions de Genève sur la Syrie, sur la guerre en Syrie. Elle devrait bien commencer cet après-midi comme prévu, mais selon le porte-parole de l'ONU, on ne connaît pas encore la composition des délégations et notamment celle de l'opposition. L'invité de la séquence interview, ce sera Bertrand Delay, qui est un auteur d'un livre sur le président iranien, l'étrange monsieur Rouhani, aux presses du midi. Voilà pour les titres, c'est à vous Caroline Brouet pour la Grande Table.
Avec deux documentaires pour commencer, deux documentaires qui parlent de guerre et qui montrent des images violentes. En dehors de leur sujet, le siège de Sarajevo d'un côté, les salafistes de l'autre, quelle est la différence entre ces deux films? Quelles ont été les démarches de leurs réalisateurs? Pourquoi le premier a-t-il reçu le FIPADOR au dernier festival des programmes audiovisuels de Biarritz, où était également présenté le deuxième, qui vient, lui, le jour de sa sortie en salle, d'être frappé d'une interdiction au moins de 18 ans. Toutes ces questions, nous allons les poser aux réalisateurs de ces deux films. Bonjour François Margolin. Vous êtes le réalisateur avec le journaliste mauritanien Lemine Oud Salem de Salafiste qui a beaucoup fait parler de lui cette semaine. Bonjour Rémi Ourdan.
Bonjour.
Vous êtes auteur et réalisateur avec le photoreporter de guerre Patrick Chauvel du Siège. Salafiste d'un côté filme la vie quotidienne sous la charia au Mali, des situations et des images d'ailleurs qui ont été réutilisées dans le film d'Abderrahmane Sissako Timbuktu. Puis après la première partie au Mali, votre film François Margolin remonte aux sources de l'idéologie salafiste en interrogeant des hommes, des autorités religieuses en Mauritanie, en Tunisie, en Irak et en intercalant des images de propagande de l'État islamique ou d'Al-Qaïda. Nous allons bien entendu y revenir. Le siège, Rémi Ourdan, revient sur le plus long siège de l'histoire de la guerre moderne, le siège de Sarajevo, qui a duré 4 ans, du 5 avril 1992 au 29 février 1996. 4 ans au cours desquels les 350 000 habitants ont été bombardés. 11 541 personnes ont été tuées dans la ville qui a été encerclée par les paramilitaires serbes. On peut dire que c'est un hommage à la résistance des Sarajeviens. Vous couvriez ce siège puisque vous êtes vous-même grand reporter, Rémi Ourdan. On peut voir d'ailleurs dans votre siège un rapport au film de Radovan Tadic, Les vivants et les morts de Sarajevo, formidable film également. Des films entre le siège et Salafiste qui d'une certaine façon seraient parce que je pense à la phrase d'un habitant du siège, il voulait détruire notre conviction qu'on pouvait et qu'on devait vivre ensemble. D'une certaine façon, la réponse à faire à Salafiste est contenue dans ce que vous dit à un moment un habitant. Vraiment, première question, en dehors du sujet, qui n'est évidemment pas le même, quelle est la différence, Rémi Ourdan, vous avez vu le film Salafiste, quelle est la différence entre vos deux films? Quelle est la différence entre vos démarches? Votre démarche, comment comprenez-vous que le siège ait obtenu un FIPADOR à Biarritz quand Salafiste, au moment de sortir, se voit frapper d'une interdiction au moins de 18 ans? En étant le plus objectif possible.
Non, mais les différences entre les films, il y en a sans doute beaucoup. Mais là, je pense que l'interdiction qui frappe Salafi, c'est pas du tout lié à des questions de cinématographiques ou documentaires. Le siège est un film réalisé 20 ans après l'événement, qui m'a pris déjà 4 années de travail, et puis qui sera suivi d'un second film parce que c'est un diptyque. Donc c'est un long projet, et très longtemps après l'événement. Je pense que ça pose des questions qui sont brûlantes d'actualité ou qui font écho, en tout cas, à nos sociétés d'aujourd'hui. Les spectateurs le diront. Mais Salafiste est, lui, définitivement sur un sujet brûlant d'actualité, dans une France qui a été frappée deux fois en un an, durement, et où le débat n'est pas très serein, c'est le moins qu'on puisse dire, après ces attentats.
Nous n'avons pas de recul, François Margolin, c'est comme ça que vous le prenez ?
Moi, je ne sais pas si on n'a pas de recul. En tout cas, je suis absolument d'accord avec Rémi et Ourdan pour dire que c'est une décision purement politique. C'est pas du tout une décision en fait sur le contenu du film. Enfin, ou si justement c'est sur le contenu du film et sur le contenu politique et pas sur la prétendue violence des images ou des choses comme ça. C'est tout à fait sur autre chose. Et je crois qu'aujourd'hui, ce film gêne parce qu'effectivement, on est dans une période de déni. C'est-à-dire que je crois qu'il y a eu un déni depuis, je dirais, 20 ans et qui s'est accentué les deux dernières années, disons, depuis les attentats de Charlie et l'hypercachère, qui fait que on ne dit pas franchement les choses et qu'il y a un certain nombre de choses qu'on ne peut pas dire. Et je crois que notre film cristallise tout ça parce que tout d'un coup, dans le film, sont dites franchement un certain nombre de choses qu'on ne dit pas d'habitude et que je pense les gens ont envie d'entendre. Parce que quand on dit, quand vous disiez là que le film de Rémi Ourdan a eu le FIPA d'or, le nôtre a été très apprécié au FIPA par ailleurs.
Où il était, je l'ai précisé, par
le public. Donc voilà, je mets pas une grosse différence. C'est pas comme si il était rejeté par le public. C'est simplement, je pense que politiquement, il y a un certain nombre de gens que ça gêne.
Mais vous dites François Margolin, pour des raisons politiques plus que cinématographiques, malgré tout, ça n'est pas la motivation de l'avis de la commission. On va vite laisser cette histoire de côté parce que je voudrais vraiment qu'on entre dans la fabrique de vos films. C'est ces deux démarches qui m'intéressent. Mais le film donne toute sa durée, dit la commission, et de façon exclusive, la parole à des responsables salafistes. Il ne permet pas de façon claire de faire la critique des discours violemment anti-occidentaux, antidémocratiques, de légitimation d'actes terroristes, d'appel au meurtre d'infidèles présentés comme juifs et chrétiens qui y sont tenus. Les images, parfois insoutenables, dit la commission, soutiennent ces propos en dépit de la volonté des réalisateurs de les utiliser en contrepoint. Donc c'est la façon dont vous avez choisi de montrer des images, c'est pour ça qu'on va parler du statut des images d'archives et du statut de ces images violentes au sein d'un film. Qu'est-ce qu'on montre, qu'est-ce qu'on ne montre pas, qui est questionné. François Margolin, sur ces images que vous avez donc délibérément montrées dans votre film, dans Salafiste, intercalées, mais sans... On voit bien la différence entre ce que vous filmez et ces images de propagande, puisqu'elles sont floues, elles sont utilisées, prises sur Internet la plupart du temps, et elles ont souvent un logo qui est, je sais pas, le drapeau de l'État islamique, par exemple. Donc on les reconnaît. Mais ce qu'on vous reproche, c'est de ne pas avoir utilisé, non pas seulement dans le dire, mais dans l'image, une sorte de contre-discours, que ce soit tout au même niveau. C'est ça qu'on vous reproche, je pense.
Elles sont absolument pas au même niveau, puisque au début, chaque fois qu'il y a une image de l'État islamique, c'est marqué très clairement que c'est des images de propagande de l'État islamique. Donc c'est marqué comme ça. Elles sont pas toutes violentes. Moi, un des trucs qui m'impressionne le plus dans les vidéos de l'État islamique, dont on a mis des tout petits morceaux, c'est une vidéo où un type est interviewé avant d'aller se faire sauter avec un camion. On le voit de loin, donc c'est pas hyper violent. Enfin, c'est pas plus violent que ce qu'on voit à la télé tous les soirs. Et par contre, il dit, c'est le plus beau jour de ma vie. Et il dit à ses copains, je vous regarderai du paradis où je vais être dans très peu de temps. Je trouve que c'est une chose qui m'impressionne incroyablement. Et je ne sais pas comment dire. Il y a un moment où, comme réalisateur ou comme journaliste, comme peut l'être aussi Rémi, c'est une chose que je ne peux pas cacher. Ça me passionne de voir ça, de même que me passionnent des choses quand je vois quelqu'un qui est à qui on vient de couper la main et qui tout d'un coup dit devant son bourreau qu'on voit dans le même plan. Donc on peut pas dire que c'est caché, qu'il est tout seul et qu'il parle librement. On voit très bien qu'il est devant son bourreau. Explique à quel point c'est formidable qu'on lui ait coupé la main et que c'est au contraire, ça le purifie et que c'est formidable par rapport à là. On se trouve dans la même situation que le procès Zelensky dans les années 40, à la fin des années 40, le procès dont on s'est inspiré, je crois que c'est Costa Gavras pour le film L'aveu avec Yves Montand, où tout d'un coup les condamnés disaient que c'était bien de les condamner pour qu'ils avouent leur faute. C'est-à-dire que tout d'un coup, moi ce qui m'intéresse dans ces images de propagande aussi, c'est de montrer ou dans celles qu'on filme, c'est de montrer en quoi elles sont des choses incroyables par rapport au rapport entre victime et bourreau. Et ce qui m'étonne, et là c'est pas pour revenir sur le communiqué que vous avez lu, c'est que quand j'ai fait à peu près le même genre de travail, honnêtement, sur les talibans, en 2000, j'ai fait le seul film chez eux sur le trafic d'opium, en interviewant que beaucoup, essentiellement des gens qui avaient des points de vue différents, mais qui étaient tous du côté des talibans, ou quand j'ai fait un film sur les enfants soldats au Liberia, où j'interrogeais des gens, où je les filmais, des enfants soldats qui disaient des monstruosités sur ce qu'ils avaient fait, ça ne gênait personne. Enfin, si, ça gênait, mais ça ne gênait pas le ministre de la Culture ou des hommes politiques. C'est-à-dire que, en faisant exactement le même travail sur des conflits, disons, éloignés, ou sur des choses plus historiques, parce que le conflit au Liberia était en train de se terminer, du coup, on se trouve avec pas du tout les mêmes réactions.
Voilà. Rémi Rodan.
Deux choses rapidement. D'une part, on n'est pas toujours obligé de tout dire sur tous les camps. C'est-à-dire que moi, quand j'étais correspondant à Sarajevo pendant tout le siège, j'étais l'un des correspondants qui allait le plus côté serbe sur la colline, voir les artilleurs, voir leurs chefs politiques, militaires, etc. Quand je fais un film, le film est sur les assiégés. Jamais la caméra, aucune archive ne dépasse l'ancienne ligne de front. C'est un point de vue radical. C'est mon intention de réalisateur. On n'est pas toujours obligé de tout dire. On va bien se douter que dans Salafi, ça ne va pas embrasser toute la question et du djihad mondial et de ceux qui le combattent. C'est un point de vue particulier. On n'est pas obligé dans un film ou dans un livre ou etc. de tout traiter toujours. On peut aller se référer ensuite à d'autres objets, d'autres œuvres pour aller avoir un point de vue différent, etc. C'est un point de vue de réalisateur. Voilà.
Point de vue. D'ailleurs, en l'occurrence, totalement inverse, puisque vous montrez les Sarajeviens en réaction et pas les paramilitaires serbes qui les attaquent,
le siège
alors que vous montrez l'idéologie salafiste et les images qui les accompagnent.
En montrant deux ou trois actes de résistance que je trouve très symboliques, qui sont des petites choses, mais que je trouve importantes quand un vieux monsieur, à la fin, on finit le film là-dessus, résiste en disant que lui fume et qu'on considère que c'est pas dans le Coran de l'emmerder pour qu'il fume pas, je trouve que c'est
son acte de résistance. C'est de défi,
oui,
même.
Et que ça montre réellement la résistance des gens par rapport à ça sur des petits actes.
Rémi Rodan.
Moi, j'ai choisi dans le siège de ne faire absolument qu'un camp et parce que l'objet qui me fascine, que je trouve éminemment cinématographique, c'est l'enfermement, le ghetto, le plus long siège de l'histoire moderne, vous l'avez dit. Voilà, donc dans ce film, je ne montre pas l'autre camp que j'ai montré comme reporter et que peut-être je montrerai un jour dans un autre projet. La deuxième chose, c'est que je pense que là, c'est plus, je ne sais pas, aux fonctionnaires qui ont pris des décisions sur salafiste aux responsables politiques, il faut arrêter de prendre les spectateurs pour des abrutis, excusez-moi l'expression. Mais enfin, les gens savent très bien quand ils voient un film que ça ne va pas faire le tour de toute la question. Ils ont envie de voir le film d'un réalisateur avec son point de vue, quel qu'il soit, et ils savent tout à fait, je pense, le juger par eux-mêmes.
Vous posez la question du point de vue, je pense que c'est précisément la question qu'on peut poser à François Margolin et à Lemine Salem dans votre film, puisque la ministre de la Culture, qui s'est prononcée en faveur de cette interdiction au moins de 18 ans, assortie d'un avertissement, l'a fait, dit-elle, au nom de la nécessaire protection de la jeunesse, d'où la question, à qui s'adresse votre film pour répondre à ce que vient de dire Rémi Ourdan, il s'adresse à l'intelligence des spectateurs. Lesquels ? Quel était votre parti pris, François Margolin ?
Le parti pris, c'est s'adresser à l'intelligence des spectateurs, et j'ai le malheur de penser que même à 12 ans, on est intelligent.
En tout cas, moi, moins averti, ça vous pouvez le reconnaître.
On est moins averti. Mais si vous voulez, le principe des censeurs dans tous les pays du monde, à toutes les époques, c'est pas pour eux, c'est toujours pour les autres. C'est toujours pour protéger les autres du mal. Et dans toutes les dictatures, je dis pas que la France est une dictature, mais si vous voulez, cette lettre que j'ai reçue enfin ce matin d'ailleurs, qui me dit en gros comment j'aurais dû faire le film, parce que c'est tout comme ça qui est dit, que j'aurais dû mettre la voix off, le monter, enfin j'aurais bien aimé qu'elle vienne à la table de montage, Madame Pellerin. Si vous voulez, c'est tout de même un truc où tout d'un coup, on dit voilà ce qu'il faudrait montrer ou ne pas montrer. Mais dans, je sais pas, en Union soviétique, ils tuaient les gens en disant que c'était pour le bien de la population. En Corée du Nord aujourd'hui, on dit que c'est pour le bien qu'on empêche un certain nombre de choses pour pas qu'on tombe dans les travers de l'impérialisme américain. Donc c'est le principe de base de toute. C'est même des fois on invoque la santé des gens ou la santé mentale.
Donc, non, mais parce que là, la difficulté avec ce qu'a très bien rappelé Rémi Ourdan au début de l'émission, à savoir le sujet brûlant du terrorisme et la difficulté qu'on a même à l'appréhender aujourd'hui, ce qui est apporté, ce qui est avancé, c'est que le film salafiste montre des images que le gouvernement ou même Anonymous, par exemple, s'efforce de bloquer pour que les jeunes qui sont formés, radicalisés sur la base de ces images de propagande, ne puissent pas les voir. Vous voilà avec un film qui donne à voir ces images, disent-ils, sans filtre. Image brute. Ça n'est pas sans filtre, François Margolin. Juste... Les images ont été coupées, vos images ont été montées.
Oui. On avait des monceaux d'horreur de l'État islamique. Je pense qu'il faut en montrer aujourd'hui parce que c'est justement notre point de vue, c'est que si on ne les montrait pas, on ne montre pas la réalité de leurs pratiques. C'est-à-dire qu'en gros, sinon on est que dans la théorie avec des gens un peu lénifiants, doucereux, calmes, qui peuvent être là vraiment séduisants. Alors si on montre effectivement la pratique de l'État islamique en partie, et ces vidéos qui sont des armes pour eux, qui sont des armes qui font fuir l'armée irakienne à Mossoul, la deuxième ville du pays, quand ils diffusent, qu'il n'y a pas de combat pour la prise de Mossoul à l'été 2014. Donc ils font aussi que ça séduit des gens, effectivement, dans les pays occidentaux, des jeunes, ou des moins jeunes d'ailleurs. C'est le contrepoint parce que c'est une chose que nous n'avions pas décidé d'ailleurs au départ du projet, puisque l'État islamique n'existait pas. Donc en 2012, on ne pouvait pas l'inventer. Mais simplement parler du salafisme sans parler aujourd'hui de l'État islamique, ça serait mentir, ça serait faire de la non-information. Donc notre point de vue, c'est de mettre ce contrepoint qu'est la pratique avec la théorie qu'expose un certain nombre de responsables salafistes.
Un obus sur le marché, un samedi ensoleillé, et c'est le carnage. Sarajevo, pilonné par les Serbes, n'avait jamais vécu un tel massacre. Il est midi devant les étals à moitié vide, les gens se massent comme chaque jour. La bombe est un obus de mortier de 120 mm à fragmentation. Après l'explosion, ne reste que 200 corps déchiquetés. Un homme brandit un bras arraché, portez-le à New York, hurle-t-il à une caméra de télévision. Heure en heure, le bilan s'alourdit, Sarajevo est en état de choc. La télévision bosniaque diffuse en continu des images de douleur et de mort. Le Premier ministre, s'il a étudié une allocution, il s'adresse à la planète tout entière. Regardez bien ces images, dit-il. Elles sont le visage de l'Europe de demain.
Un des extraits de votre film, Rémi Ourdan, Le Siège, on est en 1994, la radio française parle de ce carnage sur le marché de Sarajevo qu'on a tous en tête. Vous montrez, en même temps qu'on entend cette voix qui est la vôtre, puisque vous couvriez le siège pour les radios françaises également, vos images montrent des images qui sont atroces de carnage. Est-ce que vous avez hésité à les montrer? Est-ce que vous vous êtes dit, je vais les montrer, mais je m'arrête à un moment? Quelle a été votre limite? C'est toujours le même débat, de toute façon.
Oui, c'est un débat permanent. Je savais, c'est un débat que j'ai eu enfin, avec moi-même et puis avec mes camarades pendant tout le montage. C'est un équilibre à trouver, vous savez, c'est un point de vue aussi. Ce que je savais depuis le départ, c'est que je montrerais des images dures, que Le Siège serait un film dur, un film violent. Je pense qu'il y a aussi beaucoup de douceur et de poésie dans ce que racontent les Sarajeviens, etc. Bon. Mais il faut montrer la guerre, il faut scoltiner un petit peu le monde dans lequel on vit.
Regardez la réalité en face, dit François Margolin.
Voilà, moi, comme reporter depuis 15 ans, j'essaye de couvrir le djihad. J'étais en Afghanistan, en Irak et dans tous ces pays depuis 15 ans. La difficulté, je trouve, c'est qu'on les montre pas assez, ces djihadistes, ces salafistes, parce qu'on n'a pas assez accès à eux, parce qu'ils veulent pas de nous. Quand moi j'interviewe un djihadiste ou un salafiste dans le monde, j'en suis très fier. C'est arrivé assez trop rarement, et on n'interdit pas mon papier. Bon, bah sur Le Siège, on n'a pas ce débat, mais il y a ce débat sur la violence et sur la guerre. Je crois que, voilà, oui, le spectateur est assez grand pour... Il faut rappeler, quand même, de temps en temps, la guerre, c'est pas juste des mots, c'est pas juste des communiquer, c'est pas de la communication. C'est trop souvent perçu ici dans nos pays parce qu'on vit dans des pays en paix et des pays démocratiques et des pays de communication. Mais la guerre, c'est brutal. La guerre, c'est horrible. Et je voulais faire cet équilibre et cette balance dans le siège. Et oui, j'assume de montrer là des images que vous ne voyez pas au journal télévisé de 20h, je pense, et qui montrent la guerre.
Dimanche dernier, une vidéo de Daesh de 17 minutes a été postée. Elle s'intitule « Et tuez-les où que vous les rencontriez ». À propos de cette vidéo, François Hollande a réagi en disant « Ces images ne font que disqualifier les auteurs de ces crimes », ce qui est un peu votre pari, François Margolin, avec votre film. Et en même temps, l'historien des images, André Günther, a publié un billet de blog à la suite de du post de cette vidéo, puisqu'il a été repris sur Facebook, Yves Michaud l'a publié sur son compte, cette vidéo. Et voilà ce que dit André Günther. Mon refus de montrer cette vidéo ne doit rien à la morale. C'est d'abord un geste égoïste de préservation. Ce que je veux empêcher, c'est de laisser entrer ces images comme des corps étrangers dans mon imaginaire. Ce à quoi je résiste, c'est à une acculturation, car je sais que l'imagerie porteuse du message de haine, une fois qu'elle aura passé ma rétine, s'installera dans mon stock visuel, entrera en composition avec d'autres images, participera de ma culture. Je sais que le jour est proche où, comme Yves Michaud, je n'aurai plus le choix, mais aujourd'hui encore, j'ai résisté à cet envahissement, j'ai renoncé à voir. François Margolin, est-ce qu'on peut renoncer à voir?
Moi, je pense que c'est exactement le contraire, et en tout cas, notre métier, c'est de réalisateur ou de journaliste, c'est de donner à voir, que ce soit par des mots ou par des images. Parce que des fois, je pense que les mots, en plus, sont des fois plus violents que les images. Et dans notre film, je pense que par moment, les mots sont encore plus violents que les images qu'on montre. Mais ce que je crois, c'est que par exemple, si vous prenez la guerre du Vietnam, les deux images les plus célèbres qu'on retrouve aujourd'hui dans tous les livres d'histoire, c'est des images monstrueuses. C'est une petite fille qui court parce qu'elle a reçu du napalm, et l'autre, c'est un soldat sud-vietnamien qui fait exploser devant lui avec un pistolet la tête d'un Viet Cong. C'est des images ultra violentes, mais c'est ça sans doute aussi qui a fait, par exemple, arrêter la guerre du Vietnam, fait basculer l'opinion américaine. C'est-à-dire que il y a un moment où montrer des images, c'est fondamental, y compris si elles sont ultra violentes. Le film, si on prend le film de René, Nuit et brouillard, les images sont terribles et on l'impose à 11 ans ou 12 ans dans les lycées. C'est un film quasiment obligatoire à voir. C'est-à-dire, donc, toute la question, c'est pas les images. La question, c'est en fait finalement la distance, mais pas la distance dans le film, la distance temporelle ou la distance politique qu'on a par rapport aux choses. Et c'est pas les images en soi. Il y a pas d'image en soi. Moi, je viens d'une école qui est celle de Claude Lanzmann ou de Depardon, dont j'étais l'assistant, qui sont des gens qui montrent les choses sans les mettre dans des guides, dans des fils directeurs et en osant montrer un certain nombre de choses.
Vous parlez de distance. Peut-être une des questions qu'on peut vous poser, François Margolin, c'est par rapport à la mise en scène, au choix de mise en scène que vous avez opéré pour votre film salafiste, des interviews qui sont faites souvent en situation. Par exemple, je pense à ce haut responsable, ils sont deux d'ailleurs, je crois, à le faire, qui se mettent devant une pile de livres et qui dit très calmement que Koulibaly et que Kouachi avaient raison de faire ce qu'ils ont fait. Ils sont devant une pile de livres comme si c'était des sages qui avaient beaucoup lu. C'est pas rien, c'est pas anodin. On en voit un autre qui est dans son magasin, puis qui présente son savon islamique, sa nouvelle tenue vestimentaire à la mode. Il y en a un troisième qui est devant son ordinateur, puisque les images d'Internet sont extrêmement importantes, on le sait tous par rapport à cela, mais il est finalement assez cool, c'est le salafisme moderne d'ailleurs, assez cool, c'est un Tunisien, bon voilà. Et il y en a un quatrième qui est sur son lit d'hôpital, qui vient d'avoir la main tranchée, mais qu'on voit à côté d'un des salafistes qui a pris la décision de le faire, et il dit qu'il a été complètement pris en charge par les salafistes. Là, vous faites des choix qui sont peut-être un peu problématiques, François Margolin, parce que là, on a presque l'impression que vous êtes sous le contrôle de ceux que vous dénoncez. Parce que c'est la façon dont vous les présentez là n'est pas une façon très négative, on va dire.
Ben non, je peux pas nier.
Est-ce que vous étiez obligé de le faire comme ça, sinon ils auraient refusé peut-être.
Mais j'étais pas du tout obligé. Si vous voulez, dans le film, il y a 10 responsables importants qui sont interviewés. Il y en a 6 qui sont devant des murs blancs ou pisseux, en fait, très moches. Il y en a 2, c'est chez eux, il y a que des bouquins, c'est difficile de les faire sortir dans la rue et de les faire parler ailleurs. Il y a des types qui ont lu. Il y a un type qui cite Robert Spencer, qui est un néoconservateur américain.
C'est le même, d'ailleurs, je crois.
On peut pas nier que c'est pas, il y a des gens qui sont cultivés. Ça veut pas dire que tous les salafistes sont cultivés. Il y a aussi des petits dealers de shit de banlieue
qui... Vous dire, ça nous fait pas plaisir de le voir. On est bien obligé de l'accepter tel quel, c'est ça?
Ben, on place quelqu'un où on peut quand on filme, parce que c'est un choix. Celui qui est filmé en Tunisie sur une plage, c'est moi qui évidemment qui ai choisi, c'est pas lui qui a décidé. Je pouvais pas aller chez lui parce qu'il voulait pas que je voie sa femme, et dans une ville comme Sousse, pour trouver un endroit où il y a pas trop de bruit, je peux vous dire que c'est pas de la tarte. Donc je suis allé sur la plage, je lui ai proposé d'y aller. On est devant la mer, c'est pas uniquement parce que c'est un paysage idyllique, il y a pas le choix.
Rémi Ourdan, chez vous, les intervenants, ils sont, je crois que le décor, hein, derrière, c'est assez neutre. Ils sont assis face à votre caméra. Le lien qui est fait entre eux et les images d'archives, il me semble, mais peut-être que je me suis trompée, c'est que on les voit jeunes la plupart du temps dans les images d'archives. Et vous les avez retrouvés 20 ans plus tard, on voit les mêmes, c'est ça ?
J'ai jamais perdu le lien. Alors c'est une forme que j'apprécie pas forcément beaucoup dans les films documentaires en général, mais qui là, c'est un procédé que j'ai utilisé parce que, pour deux raisons. D'une part, parce que je ne voulais surtout pas que le film montre le Sarajevo d'aujourd'hui. Je voulais vraiment qu'on soit enfermé dans le siège et qu'on ait ce sentiment d'enfermement et d'être assiégé presque. Et la deuxième raison, c'est aussi mon expérience de reporter de guerre. Je savais qu'on allait parler de choses dures et de tragédies et de souffrances, entre autres. Et d'où la décision de s'enfermer avec eux dans une petite boîte noire où même l'équipe était quasiment invisible et où on parle pendant des heures, des conversations très, très intimistes. Voilà. Donc c'était un procédé et qui a fonctionné pour parler d'une histoire du passé. Je voudrais relativiser une petite chose quand même dans tout ce débat, c'est que, ce sera un désaccord avec François, c'est que je pense pas que les photos ou l'opinion publique américaine ont arrêté la guerre du Vietnam. Ce qui a arrêté la guerre du Vietnam, c'est la victoire du Viet Cong. Il faut relativiser, c'est-à-dire que tous ces films, ces livres, etc.
L'impact des images, l'impact des documentaires.
Ne déclenche pas des guerres et en général n'arrête pas des guerres. Je pense pas que les jeunes djihadistes qui vont en Syrie, en Irak, ont besoin de salafistes pour y aller. Je ne pense pas que le siège, malheureusement, j'aimerais bien, mais je ne pense pas que le siège empêchera la prochaine guerre des Balkans si elle doit avoir lieu. Ben voilà. Relativisons aussi tout ça. C'est la politique. Et là, les responsables politiques doivent, je veux dire, prendre des responsabilités. On peut pas accuser un film ou un livre de déclencher de la violence comme ça, à ce point-là. C'est pas vrai. Et le rôle est quand même limité. On est là pour faire des films. Et là, les spectateurs jugeront, mais ça ne déclenche pas de la violence. Je ne crois pas.
À la fin du siège, l'un des habitants dit à Sarajevo, on a défendu la civilisation avec les armes de la civilisation. Dans ce sens, nous n'avons pas seulement vaincu l'ennemi, nous lui avons infligé une défaite. Voilà qui pourrait aussi être une fin pour salafistes, une fin de résistance. Et d'ailleurs, c'est un des Sarajeviens qui parle en voix off. Merci beaucoup à tous les deux. On pourrait poursuivre le débat pendant longtemps.
Merci beaucoup
François Margolin. Concrètement, on peut voir le film à Paris dans deux salles pour
deux
l'instant.
Salles,
et en France,
et autre à Luxembourg.
Dans une salle supplémentaire.
À Grenoble et dans une salle de banlieue à Draveil. Et je pense qu'il y aura plus de salles puisque le film marche très bien. Du coup, à partir de mercredi.
Et le siège sera diffusé sur Arte le 22 mars à 22h40. Merci à vous, Rémi Ourdan.